20h01 et tout de suite retrouver votre nouvelle émission de Génération Sport.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur Génération Sport sur le 101.5 de Radio G, excusez-moi, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission entièrement sportive bien évidemment sur les antennes de Radio G, et on va tout de suite mettre le pied au plancher parce qu'on a quand même une grosse émission à faire. Il y a quand même des sujets assez importants à développer dès ce soir avec une grosse page sport US avec donc du football américain et de la NBA. Ça va te faire plaisir, Faustin. D'ailleurs, je commence par toi pour te présenter ce soir. Comment vas-tu?
Bah ça va extrêmement bien avec toutes ces nouvelles du côté de des États-Unis, surtout du côté de la NBA pour moi, du coup, tous ces trades. On va revenir dessus plus tard, mais j'ai eu un gros week-end du coup.
Un très très gros week-end avec de très grosses annonces. Je pense que ton portable a bien vibré.
Exactement.
Lors de ce week-end dimanche et lundi matin. Un homme avec qui j'ai pas encore fait d'émission en 2025. C'est ma première avec toi cette année, Cédric. Comment vas-tu?
Eh ben écoute, ça va plutôt bien.
On peut plus dire bonne année. On a passé le 31 janvier. Donc, mais bon.
Faut souhaiter une bonne chandeleur après tout. C'était quelques jours.
Un bon mois de février.
Mais voilà.
Comment vas-tu?
Eh ben écoute, pareil, moi, gros week-end de mon côté. Forcément, on rentre dans la période où aux US ça bouge beaucoup en termes d'événements.
Ouais.
Entre la magnifique draft, j'ai envie de dire, qui commence. Enfin, on peut pas vraiment appeler ça une draft, mais je trouve que dans l'esprit, ça y ressemble. Puis c'était surtout le week-end du Royal Rumble.
Ouais, pour le catch.
Pour le catch. Pour toi, et puis c'était surtout dans la semaine, le retour de la WWE à Paris au mois d'août.
Ouais, et tu vas pouvoir nous en parler aussi, bien évidemment, et tout au long des mois à venir, parce que c'est vrai que ça a fait grand bruit l'année dernière, en tout cas à Lyon, et on espère que ça fera grand bruit aussi du côté de Paris. Un homme, en parlant de Lyon. Voilà, on va évoquer.
On était sûr.
C'est vrai, en fait, l'enchaînement, il me l'a donné comme ça sur un plateau, ah, Cédric. Ouais. Donc forcément, un week-end très douloureux pour toi,
ouais,
Mathéo.
Plutôt, ça a été assez compliqué. Tout mon bonheur est parti dans un homme situé à ma droite.
Ouais.
Ce qui est assez décevant, on va pas se mentir, pour ma part, mais ouais. Sinon ça va très bien. Pour tout ce qui est du reste.
On va quand même rappeler à nos auditeurs que Mathéo est supporter donc de l'Olympique Lyonnais, défaite 3-2 ce week-end, dimanche soir, dans cet Olympico qui a forcément ravi l'homme à sa droite.
Et que je présente dès maintenant.
L'enchaînement est parfait, j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas pu le faire. Amaury, comment vas-tu ce soir?
Eh ben forcément, on va très bien après une victoire comme ça. Maintenant, on le sait, avec Marseille, on va pas s'emballer trop vite. Hein. On a perdu la semaine dernière contre Nice, donc voilà. On reste très calme.
On reste très calme. T'as forcément vécu aussi un bon week-end parce que on rappelle quand même que nos Français ont décroché une médaille de bronze.
Ouais, on va dire week-end meilleur que jeudi dernier. Hein,
c'est, oui, voilà.
Forcément, mais on finit sur une bonne note et on en reparlera très rapidement en fin d'émission aussi.
Ouais, c'est le plus important. Et on accueille dans cette émission une personne qui est là très souvent chaque année, qui revient.
En tout cas, le club est souvent là.
Exactement.
Après, oui, ça commence, c'est un petit habitué, moi, 3 ou 4 épisodes déjà de Génération Sport. Donc, je te laisse là.
Ben oui, le directeur sportif des Yankees, Nelson, comment vas-tu?
Ça va, merci. Bonsoir tout le monde.
On va pouvoir parler avec toi de sport US, mais notamment de football américain. Et puis, il y a une grosse actu ce week-end. C'est pas comme s'il y avait une des plus grosses finales. Enfin, la plus grosse finale, du coup. En NFL, le Super Bowl qui va se dérouler dans la nuit de dimanche à lundi, on va l'évoquer dans quelques instants. On fait quand même une parenthèse avec le sport local, avec quand même l'actu locale, avec ce match nul du SCO ce week-end du côté, enfin non, à domicile face au Havre, un but partout. Le SCO s'est fait peur, voilà, ils étaient quand même menés 1-0 avec ce but dans les derniers instants, l'égalisation qui arrive vraiment au bout de cette rencontre. Est-ce qu'il y a l'un de vous qui souhaiterait développer sur le SCO et sur ce point du match nul?
Bah, c'est pas exceptionnel, en fait, comme prestation. Hein. Entre le bon, il y a un contexte aussi à ce match-là. Hein. Faut le rappeler, il y a un carton rouge assez tôt.
Double carton rouge.
Au bout de 3 minutes, je crois, c'est ça. Et ensuite, oui, il y a le deuxième carton. J'ai dit jaune d'ailleurs. C'est rouge, oui, c'est double rouge.
Ouais, double rouge et après un jaune qui aurait pu être un rouge.
Jaune orangé, comme on dit.
Voilà.
Non, mais ça a été un match assez, quand même, je trouve plutôt intéressant de la part de certains joueurs quand même. Il y a du bon, il y a du mauvais. Ce qui est plutôt dommage pour le SCO, c'est qu'on a vraiment cette impression que le club était venu là pour prendre le point du match nul dès le début. Ça a été assez dommage pour le coup. Et ça se voit aussi sur les joueurs qui ont fait la meilleure rencontre du côté du SCO. Donc, ça a été plutôt les milieux de terrain, plutôt la défense. Notamment, encore une fois, Bioumla que j'aime tant et qui a fait un match assez intéressant, même si c'est lui qui est un peu fautif, entre guillemets, sur le but d'Ayou, mais après, Ayou a été la chercher à l'expérience aussi. Donc, c'est un match assez décevant parce que c'est face au Havre, qui est dernier de Ligue 1, qui propose des choses plutôt moyennes depuis le début de la saison, qui n'a pas gagné depuis, je crois, novembre ou décembre. Voilà, il fallait gagner, ça a pas été fait, mais c'est pas non plus un grand problème puisque le SCO avec ce match nul remonte au classement, donc à la 12e place, prend cette 12e place à Reims. Chapeau messieurs quand même, et puis le SCO reste quand même sur une seule défaite en 2025.
Pas mal.
Et c'est quand même assez, voilà, il faut le noter, et Kalumba fait une entrée aussi, donc forcément
le retour.
Je suis très content de ça.
5 points d'avance sur la zone de relégation sur le premier donc barragiste, le 18e, qui est Saint-Etienne. On rappelle à nos auditeurs que le SCO se déplace demain à la Méno du côté de Strasbourg en Coupe de France, en espérant que le parcours en Coupe de France va continuer pour les scoïstes et pour les angevins. Et on va maintenant...
Il y a un bon arbitre aussi.
Il y a un bon arbitrage. Et il y a un match qui va suivre avec attention, et malheureusement il sera pas forcément là la semaine prochaine parce qu'il malheureusement le boulot, voilà, mais Amaury, il y a un beau match pour toi ce week-end entre Angers et Marseille.
Et je serai là la semaine prochaine.
Je serai là.
Je commence le mercredi à travailler. Je rentre le mardi d'un petit week-end. Je serai là. J'aurais pas eu forcément le temps de tout regarder ce week-end, mais
au moins le Angers Marseille. Mais
voilà, on regardera le match et on pourra en parler évidemment mardi prochain.
On pourra en parler mardi prochain, évidemment. On va passer avec le basket avec toi, Faustin. Qu'est-ce qui se passait ce week-end dans la planète basket du 49 du coup?
Ouais, rapidement, le AB qui a fait une semaine plutôt mitigée. D'abord une victoire 81 à 76 contre Chaland, qui était alors deuxième du classement. C'était une bonne surprise. Ils ont ensuite perdu 86 à 80 à Tours, et ils jouent ce soir contre Poissy. Pour l'UFAB, là aussi une semaine une semaine mitigée, avec d'abord une victoire en prolongation à Villeneuve-d'Ascq sur le score de 79 à 73, et ensuite une défaite 66 à 76 samedi contre Montpellier. Cette défaite les écarte un peu du top 4, mais elles restent en bonne posture pour accéder aux playoffs. Maintenant, du côté de Cholet, c'est une excellente semaine dans les Mauges, avec d'abord une victoire en Coupe d'Europe contre Bilbao, ce qui leur permet d'être premier de leur groupe, et les Choletais ont ensuite enchaîné sur une victoire 105 à 75 en Betclic Elite face à Strasbourg, et reste premier du classement.
On va finir par y croire.
C'est plutôt bien parti.
On espère, on croise les doigts au moins d'un parcours très très lointain en play-off la fin de cette Betclic Elite. En tout cas, on va y croire pour les Choletais. On va rester dans l'actu locale, parce que on va quand même parler des Yankees, mais on détaillera un peu plus longuement les détails d'autres disciplines la semaine prochaine. On prendra le temps, on pourra vraiment plus développer tout ça la semaine prochaine. Donc ne vous inquiétez pas, on parlera volley, on parlera football aussi. Avec d'autres points, avec la Coupe de l'Anjou notamment ce week-end, qui va se dérouler sur les terrains de foot angevin, mais on évoquera aussi le roller hockey, le hockey sur gazon, enfin voilà, tout ça. D'ailleurs, on a le hockey sur gazon qui va revenir d'ici les vacances, ou d'ici 15 jours, il me semble.
Oui, c'est ça, en février, fin février, ouais. On va essayer de faire ça pour la deuxième partie de saison, qu'on puisse en parler un peu.
Faire le point avec eux, voilà.
Exactement, ça sera l'objectif.
L'objectif était le maintien au début de la saison. On va faire le point avec eux sur leurs résultats et savoir où est-ce qu'ils en sont. On va apparemment parler des Yankees avec le football américain. Je vous laisse la main, messieurs.
Bah oui, comme tu l'as dit, cette semaine sportive, elle est estampillée football américain, à quelques jours du Super Bowl. Génération Sport reçoit ce soir les Yankees d'Angers, digne représentant du football américain ici dans le 49, mais aussi du flag et du cheerleading. Nelson Bernardes, directeur sportif du club, est venu nous parler de la vie de passionné qu'il a, de comment ses 36 années de présence du club sur le territoire ont su apporter quelque chose de nouveau, une proposition qui plaît. Alors, comme à l'accoutumée, on aime bien faire ça dans Génération Sport. Nous allons commencer avec cette petite question d'apparence plutôt simple. Comment se joue le football américain?
Comment ça, t'as jamais écouté toutes les émissions qu'on a fait dessus?
Et si, bien sûr, mais il y a des auditeurs qui
découvrent,
sont pas au courant, voilà. Et on a le droit, c'est assez complexe le football américain.
Alors c'est pas si complexe que ça. C'est comme tous les sports, il y a plusieurs règles qui viennent amener un cadre pour le jeu, et le principe de base, ça reste juste un sport de gain de terrain. concrètement. Donc c'est un sport collectif où le but c'est de faire avancer la balle dans le terrain et de la ramener dans la zone d'en-but de l'adversaire. Donc ça résonne tout simplement comme le rugby et c'est logique parce que c'est de là que vient le football américain à l'origine. La seule différence, c'est que au fur et à mesure, il y a des règles qui ont été apportées pour modifier l'esprit du jeu. On a le droit de faire des blocs, ce qui est la base dans ce sport, c'est-à-dire qu'il y a 10 joueurs qui vont potentiellement se sacrifier physiquement pour qu'il y en ait un qui brille. On a le droit à une passe en avant, à différence encore une fois du rugby. Donc c'est ce qui amène ces phases très spectaculaires où il y a des receveurs qui attrapent des balles avec un lancer de plusieurs dizaines de mètres ou de yards. On va utiliser le jargon adapté. Et ensuite, il y a cette spécificité très, très américaine où il y a ce rôle de spécialiste sur le terrain, où il va y avoir 11 attaquants contre 11 défenseurs, des spécialistes dans les phases de jeu d'équipe spéciale, justement. Et ça amène cette spécificité qu'on retrouve dans le football américain et qui permet d'appuyer vers le perfectionnement à chaque poste.
Ouais, c'est un sport qui est assez spectaculaire avec toutes les règles dont tu nous parles justement. Est-ce que c'est cela aussi qui plaît, le côté très américain de ce sport qui l'a dans le nom finalement?
Le côté américain pour le côté spectaculaire, oui, parce qu'il y a le... C'est visuel. Voilà, les équipements, forcément, un casque, une épaulière, cette espèce d'armure de gladiateur et tout ce que ça peut renvoyer dans l'imaginaire commun. Donc forcément, visuellement, c'est impressionnant. On va pas se mentir, les Américains savent filmer les rencontres. Donc ça rend souvent très bien, c'est bien réalisé, bien amené, les cadrages montrent les actions comme il faut, les highlights, c'est toujours des phases qui sont spectaculaires à voir très rapidement. Donc voilà, tout ça, ça met en avant la discipline et ça permet en effet de voir le côté spectaculaire du sport.
Et on a pas mal de joueurs pour rendre justement ce sport spectaculaire. Dans chaque équipe de NFL, on a 53 joueurs qui ont différentes spécialités, la défense, l'attaque, puis les équipes spéciales. Est-ce que tu peux nous parler justement de tous ces postes?
Alors, tous les postes, ça
pas tous
très
les
long.
Postes, on va dire les zones, les phases que les joueurs portent, c'est-à-dire les phases offensives, défensives et spéciales.
Ouais, tout à fait. Alors, je vais réduire un peu grossièrement pour donner l'idée, mais en gros en attaque, le poste le plus connu c'est celui de quarterback. Donc ça c'est un poste spécifique qui est tenu par un seul joueur sur le terrain.
Généralement la star de l'équipe.
Généralement la star de l'équipe, celle qui donne le tempo et le niveau de l'équipe. C'est très rare d'avoir un très très bon QB qui performe si le reste de l'équipe est pas bonne. Par contre, si l'équipe n'est pas bonne et qu'elle a un QB qui est pas bon, ça ira nulle part. Donc le quarterback qui applique les jeux qui sont donnés par les coachs. C'est une des spécificités aussi dans ce sport. Le coach sur le bord du terrain annonce les jeux et lance les jeux en fonction des situations. Donc il est à part entière dans l'équipe et dans les situations de jeu. Au basket, par exemple, qui est un sport super intéressant en tactique, les phases sont travaillées et le coach peut amener des phases de jeu. Mais il y a des transitions qui sont faites par les joueurs eux-mêmes, qui sont appelées par le meneur, etc. Alors que là, le coach appelle les jeu après jeu. Pour protéger ce joueur qui est assez précieux et essentiel dans le rôle, il y a la ligne offensive. Donc ce sont les joueurs les plus grands et les plus costauds de l'équipe, et pas les moins mobiles, qui sont là pour protéger le joueur, mais aussi ouvrir des brèches pour permettre la course. On en vient justement aux porteurs de balles, les running backs, qui sont les joueurs qui vont avoir la balle très rapidement et qui vont aller chercher du yard tout de suite au sol, sans prendre le risque de devoir attraper une balle. Donc c'est souvent des joueurs assez costauds et rapides qui vont essayer, après les premiers contacts, de gagner des yards supplémentaires. Et on a donc les receveurs, qui sont des joueurs plus longilignes, très rapides, qui vont faire des tracés qui sont préparés au préalable à l'entraînement, qui sont appelés dans les jeux pour trouver des zones ouvertes et venir faire ces gros gains que les situations peuvent amener. Donc ça, c'est sur l'aspect offensif, on va avoir ces quatre postes. En défense, ça se réduit vraiment, pour faire succinct, à trois zones de jeu. Donc la ligne défensive, qui est là pour contrer la ligne offensive, mettre la pression au quarterback ou plaquer très tôt les phases de jeu. Les linebackers, qui sont le second rideau défensif, qui vont réagir eux principalement contre la course et couvrir des zones courtes, et vraiment, encore une fois, je grossis les traits, hein, pour simplifier. Et tout ce qui est backfield défensif, les DB, donc ça va être des free safety, des cornerbacks, donc à différents postes en fonction des styles de jeu, qui eux vont couvrir le reste du terrain plus contre la passe. Mais comme toute défense dans tout sport, chacun doit être capable de réagir au jeu en fonction de ses responsabilités. Et donc c'est une escouade collective qui cherche à contrer une autre escouade collective.
Et parle-nous aussi des équipes spéciales. J'en ai parlé un petit peu dans ma question, mais c'est vraiment une spécificité de ce sport-là aussi, du football américain, qui a peut paraître comme ça assez étonnant d'avoir une équipe spéciale juste pour les coups de pied arrêtés tout simplement. Mais parle-nous-en de alors, ces personnes-là qui constituent ces équipes.
Alors j'ai une anecdote assez importante concernant le sport angevin au football américain. Je terminerai par ça. Mais pour répondre à ta question, en effet, c'est un tiers de l'issue des matchs, parce que concrètement sur les équipes spéciales, s'il y a des grosses erreurs, ça a un impact immédiat, et les phases de coup de pied peuvent rapporter des points dans les situations où on n'a pas réussi à marquer par le jeu. Donc c'est des phases qui sont hyper importantes. La petite précision, c'est que dans les équipes de NFL, c'est pas 11 joueurs de spécialistes. Il va y avoir certains rôles spécialistes, notamment celui qui donne les coups de pied, bien sûr, mais sinon le reste, c'est souvent des joueurs qui sont remplaçants à d'autres postes, voire qui sont titulaires à des postes mais qui sont très bons à ce poste-là, donc il y a une espèce de rotation. Donc c'est pas 11 joueurs spécialistes, mais par contre il y a des joueurs qui sont vraiment spécialistes dans le rôle. Et l'histoire que je voulais vous raconter, c'est une fierté pour nous au club, parce qu'on a un joueur formé au club qui a participé l'an dernier à un camp de détection dans la Ligue professionnelle européenne, qui existe depuis maintenant 3 ans. Et grâce à ce camp, il a été repéré par l'équipe professionnelle de Paris. Il a été signé, il a fait une très bonne saison, il a permis à l'équipe de se qualifier sur un match décisif. Voilà, il a un avenir qui peut être très intéressant s'il performe encore à haut niveau. Il est tout jeune et c'est un spécialiste. Alors c'est aussi il joue à d'autres postes. Il aimerait jouer plus souvent à d'autres postes, mais il se débrouille très bien à son poste de spécialiste et il apporte beaucoup à une équipe.
Vous êtes justement un club qui se positionne comme formateur aussi. Comment ça se passe justement? Parce que c'est un sport qui est quand même assez américain. Encore une fois, c'est vraiment dans le nord de l'Amérique qu'on retrouve le football américain, donc États-Unis, Canada. Comment ça se passe justement au niveau de la détection de joueurs, que ce soit à l'échelle européenne, mais aussi du coup américaine? Et est-ce qu'il y en a certains de vos joueurs qui vont aller là-bas, qui vont aller dans des universités justement se former pour pourquoi pas derrière performer dans des grandes ligues?
Alors on est plus de la détection, on est sur du recrutement, parce que au niveau local, bah faut déjà que les personnes aient envie de faire un sport de combat, parce qu'on reste un sport de combat d'extérieur, collectif. Donc c'est plein de critères qui font que on n'est pas obligé d'être attiré par ce sport-là en particulier. Donc c'est surtout du recrutement, la visibilité, se faire connaître, et c'est là où on a pris la démarche depuis une petite dizaine d'années de proposer l'activité, de proposer le football américain et son dérivé sans contact, le flag, dès le plus jeune âge, pour justement essayer de rencontrer le public le plus large possible, et que dans le lot il y ait des jeunes qui restent, s'investissent, se développent, qu'on peut former dans la durée. Et justement on est maintenant alors pas à l'aboutissement, parce que c'est un éternel recommencement, hein. Le but, c'est de continuer à en former de plus en plus. Et on a actuellement encore chez les jeunes des profils particulièrement intéressants. Mais on arrive sur le premier cycle où on a accueilli des jeunes à qui on a fait découvrir le flag dans les écoles il y a 7-8 ans, qui ont été repérés par le pôle fédéral, donc le centre de formation de la fédération, qui sont des titulaires en équipe de France jeune, d'autres qui sont aussi en équipe de France senior. On avait l'an dernier 4 joueurs qui sont partis au Canada dans des cégeps, donc c'est des parcours préuniversitaires. On a un joueur qui rentre en université grâce à ce parcours-là l'année prochaine. Donc on récolte un peu les fruits. Alors on récolte pas directement, parce que ces joueurs-là sont pas dans notre équipe. Un jour ils reviendront tous ensemble et on aura une super équipe qui sera étoffée à un top niveau. Mais en tout cas, eux, ils vivent de super parcours, ils représentent les couleurs des Yankees et d'Angers partout dans le monde, et ouais, pour ça c'est une vraie fierté.
Vous avez quand même un bon niveau au flag, mais on va pouvoir en parler justement. C'est quoi les différences entre le flag et le football américain en tant que tel?
Alors les différences, elles sont assez simples. On enlève toute notion de contact. Alors on enlève toute notion de contact, mais je vais quand même apporter une petite précision. On se retrouve un peu comme dans l'état d'esprit du basket. Alors les écrans en moins, clairement. Mais deux joueurs qui doivent aller chercher un ballon vont aller tous les deux vers le ballon et donc peuvent avoir un petit contact. Par contre, on n'a pas le droit de pousser un joueur pour obtenir la balle, on n'a pas le droit de pousser un joueur pour arrêter l'action, etc. C'est toutes ces phases de contact qui peuvent être plus ou moins dangereuses qui sont enlevées. Le principe reste le même. Derrière, ça, c'est un sport de gain de terrain sur un terrain réduit avec moins de joueurs pour que ce soit plus accessible. Et au lieu d'avoir un plaquage pour arrêter l'action, on porte des ceintures avec des bandes de tissu sur le côté qui sont arrachés pour arrêter l'action. Donc ça amène des travails d'esquive qui sont un peu différents par rapport au football américain, parce qu'il y a tout un travail de mobilité de hanches à vitesse maximale, avec changement de direction. Donc c'est un sport d'esquive vraiment à part entière. Et en effet, on a plutôt un bon niveau au club, que ce soit chez nos jeunes, qui l'an dernier ont fait la finale nationale du tournoi à Jean-Bouin de la catégorie U12, en partenariat avec la NFL. Ou nos seniors qui cette année étaient en finale de conférence de première division qu'on a pu organiser justement à Angers fin décembre.
Justement, j'allais y venir.
Pardon. Il faut rappeler que ce sera finale de conférence olympique.
Exactement, on va y venir aussi juste après, c'est prévu dans le déroulé. Mais justement, cette finale de conférence Nord, c'est quand même un énorme événement pour vous. J'imagine, comment est-ce que ça s'est passé déjà sur le plan de l'organisation et puis après sur le plan sportif pour vous?
Sur l'organisation, c'est pas quelque chose qui m'a plus inquiété que ça, parce que ça reste un gros tournoi organisé. Donc voilà, c'est des équipes qui viennent jouer les unes contre les autres. Donc en soi, c'est rien de méchant. C'est juste qu'on a eu énormément de soutien de la part de la ville, qui a accepté de tracer des terrains de flag aux normes sur les terrains à disposition. Alors, traçage temporaire, certes, mais ça a permis de donner des conditions de jeu qui sont dans les meilleures de ce qu'on peut trouver actuellement en France. Donc ça a été énormément apprécié par les équipes qui sont venues. Et un énorme investissement aussi des bénévoles du club qui ont donné beaucoup de temps pour que l'événement soit réussi, avec la classique buvette, avec le merchandising à proposer, avec l'accueil des athlètes, des équipes, avec l'installation des terrains, etc. Donc c'est une organisation où on est assez rodé, mais voilà, on avait envie aussi derrière, surtout, de mettre une belle communication sur l'événement, de pouvoir faire suivre l'événement partout en France. On n'était pas juste une équipe qui jouait cette finale de conférence, on organisait la finale de conférence, donc vis-à-vis de l'ensemble des équipes et des passionnés de flag en France, on avait l'envie que ce soit bien retransmis. Donc là-dessus, je pense qu'on a réussi le marché.
Ça s'est fait au de Saint-Aubin?
Tout à fait, oui. Ouais,
sur les terrains, vos terrains dont vous avez coutume d'utiliser, quoi.
Alors nous, on a un terrain là-bas, enfin, c'est pas notre terrain, c'est celui que la ville nous met à disposition.
Ouais.
Mais il y a un terrain de football américain, tracé football américain, et justement, la grande particularité, c'est que pour accueillir une finale de conférence ou d'autres événements de ce niveau-là, il faut avoir plusieurs terrains disponibles, parce que la particularité de la finale de conférence, c'est deux tournois de quatre équipes qui se déroulent en simultané, et à l'issue de ces deux tournois, il y avait des phases de play-off pour savoir qui allait se qualifier pour la finale nationale. Donc voilà, il fallait avoir suffisamment de terrain pour pouvoir tout accueillir, et c'était là où ça a amené une logistique supplémentaire. Mais ouais, tout à fait, au Haut-de-Saint-Aubin, sur le terrain où on a les poteaux en Y.
Ouais, voilà. Ça, c'est assez identifié dans le tissu local, de voir le football américain. C'est vrai que quand on peut en parler autour de nous, de tous les sports, ils savent que les Hauts-de-Saint-Aubin, c'est le bassin du football américain.
Ouais, c'est l'idée depuis une dizaine d'années, encore une fois, où le club a franchi le palier du professionnalisme. Je parle pas de la structure sportive, mais d'avoir des salariés, tout simplement, donc qui permet un développement un peu plus rapide et structuré. Et à partir de ça, on a pu s'engager dans des animations dans les écoles, donc en effet dans les écoles des Hauts-de-Saint-Aubin. Donc voilà, moi je suis assez fier aujourd'hui de me dire que depuis une dizaine d'années, il y a des milliers de gamins qui ont essayé le flag, qui ont vu le flag, qui connaissent le flag, qui vont peut-être pas forcément en faire, c'est pas un drame, mais au moins ils savent ce que c'est, ils ont déjà vu ce ballon, ils connaissent les Yankees, donc par rapport à il y a une dizaine d'années où c'était pas le cas, c'est un vrai atout, et c'est vrai que voilà, on est sur un vrai ancrage local.
Et puis ce genre d'événement permet aussi justement de populariser encore plus, que ce soit le flag, le football américain, et puis vous, votre club, justement au niveau du retour public. Comment est-ce que ça s'est passé? Comment est-ce que le public a accueilli l'événement? Et est-ce qu'on a eu beaucoup de personnes qui se sont déplacées, tout simplement?
Beaucoup de personnes. Non, je vais être honnête, on peut pas dire qu'il y avait forcément beaucoup de personnes. Sur l'ensemble de la journée, on n'a pas tenu un chiffrage pour se donner un ordre d'idée. Et comme c'était sur deux terrains, c'était un peu réparti de chaque côté. C'était difficile de comptabiliser vraiment le nombre de personnes venues. Mais ça a représenté, oui, quand même un certain nombre de personnes qui, pour certains, sont des passionnés, d'autres qui ont découvert. Voilà, je peux pas forcément faire un retour précis sur le public qui a découvert. Et c'est surtout, nous, ce qu'on voulait au départ, c'était faire rayonner cet événement sur les réseaux sociaux, là où aujourd'hui on sait qu'il y a un impact qui est important. Mais en l'occurrence, on a une buvette qui a plutôt bien marché, donc c'est qu'il y a eu du monde.
C'est toujours le facteur décisif. C'est là où tu joues
à la buvette.
C'est la jauge, c'est la jauge du supporter. Ah, c'est exactement. Si ta buvette, elle marche, c'est que ton événement a marché.
Si dans la première heure, t'as plus de fût, c'est que c'est bon signe.
C'est que c'est bon signe aussi, voilà, c'est clair.
Là, pour rester du coup sur la découverte du flag, il y a un événement, on en a parlé un petit peu, Cédric nous a lancé un petit peu sur le sujet. Dans 3 ans, le flag sera au JO justement, et là, la découverte peut se faire encore plus massivement. On l'a vu, hein, de toute façon, l'impact que ça a eu sur les clubs locaux, nous, sur ceux qu'on a invités, que ce soit le volley,
le
hockey sur gazon, le
rugby aussi, ouais,
ça a été assez marqué. Est-ce que vous justement c'est un événement que vous attendez avec beaucoup d'impatience ces JO pour voir justement quel impact ça pourrait avoir localement sur vous?
Alors ouais, complètement. On sait statistiquement c'est prouvé, les sports qui sont au JO, ils ont généralement des dizaines de pourcents de licenciés en plus l'année des JO. D'un point de vue professionnel, moi, je vais être en alerte sur le fait que j'ai pas envie que ce soit juste un pic tous les 4 ans, en fait. Et c'est là où j'espère, et je participe à des temps de travail avec notre fédération. Donc, j'espère que la fédération va faire le nécessaire pour que justement on puisse pérenniser l'avantage de ce rayonnement sur un gros événement comme les JO. J'en parlais tout à l'heure sur la retransmission télé. Pour le coup, ouais, j'ai très hâte de voir des matchs de flag filmés par les Américains. Ça va être assez bien fait, je pense, et du coup, ça va être super valorisé pour nous. Donc oui, il y a forcément une grande hâte. Faudra être prêt aussi parce que accueillir peut-être 15-20%, si ce n'est beaucoup plus, parce qu'on part quasiment de rien en termes de visibilité, de licenciés en plus, il faut avoir la capacité d'encadrement pour ça. Donc c'est pas juste, on a plein de licenciés qui arrivent, mais si on n'a pas la qualité d'encadrement en nombre ou sur la gestion de l'effectif, on peut se mettre en difficulté. Donc c'est un travail sérieux à engager, et pas juste compter sur un rayonnement tous les 4 ans, et puis après que ça retombe, quoi.
Et puis ça a surtout joué en fait sur la rediffusion, je pense, des matchs et surtout de l'accompagnement et de l'explication qu'il va avoir autour. Depuis un moment, je trouve que le service public là-dessus s'est amélioré sur des sports qu'on va dire mineurs, entre parenthèses.
En France, ouais.
En France,
ouais.
Ils sont largement améliorés, ils prennent plus ça à la rigolade. Il y a quand même généralement des spécialistes qui viennent expliquer, même si on n'a que 5-10 minutes d'image, il y a toujours quand même un retour spécialiste. Donc là, ce qu'il faut espérer, c'est que ce soit le même traitement. Déjà, je pense que si une équipe française peut se qualifier, ce sera bien. Parce qu'on ne sait pas encore si c'est sport de démonstration ou si ça va être discipline olympique en tant que telle. Donc il y a ça aussi qui va jouer. Je sais que par exemple pour la crosse, ça bouge aussi du côté de la fédération française. Mais au niveau international, pour l'instant, c'est un peu flou. Ils ont défini le format. Mais en termes de ça donne plus l'impression que c'est en termes d'invitation.
Alors on attend justement de savoir quel format de qualification sera donné. L'équipe de France masculine, malheureusement l'équipe féminine a raté son dernier tournoi et j'espère que ça va pas la pénaliser dans le parcours de qualification. Mais l'équipe de France a fini 4e ou 5e des derniers mondiaux. Donc, c'est positionné dans le groupe de tête pour être au JO. Et en effet, en termes de visibilité, oui, il faut qu'il y ait une équipe de France sur place pour que les médias français s'y intéressent, en espérant qu'on soit sur une heure de diffusion qui convienne aussi.
Ouais, c'est ça le problème. Ça va être Los Angeles avec les 9h d'écart, ça va être compliqué d'avoir du monde. C'est vrai que la rediffusion est importante. Et t'as raison sur le binôme de commentateurs. Hein, quand ils vont mettre un binôme sur la discipline, en tout cas, ça va être important aussi de bien choisir parce que la vulgarisation du sport est très importante, en tout cas en France, et notamment de ce sport-là, qui n'est pas forcément le plus connu au sein de tous les sports olympiques qui vont se présenter à Los Angeles en 2028. On va se faire une petite pause musicale avec le DJ de l'émission. Qu'est-ce qu'il nous a prévu aujourd'hui ?
Bah, c'était tout trouvé pour aujourd'hui. On va s'écouter celui qui performera dimanche soir au Super Bowl avec son titre qui a été Grammy Awardé aussi le week-end dernier. On va s'écouter Not Like Us de Kendrick Lamar.
Yeah, people. Nothing on that beat, nope. Hey, mustard on the beat, ho, Debo, any rap nigga, he a freak, though, man, damn, call her Amber Lambs, tell him breathe, bro, nail a nigga to the cross, he walk around like Tizo, what's up with these jabroni ass niggas trying to see Compton, the industry can hate me, fuck them all and they mama, how many ops you really got, I mean it's too many options, I'm finna pass on this body, I'm John Stockton, beat your ass and hide the Bible if God watching. Sometimes you gotta pop out and show niggas. Certified boogeyman, I'm the one that up to score with him. Walk him down whole time, I know he got some hoe in him. Pull on him, extort shit, bully the flow on him. Say Drake, I hear you like I'm young. You better not ever go to cell block one. To any bitch that talk to him and they in love, just make sure you hide your little sister from him. They tell me Chubb's the only one that get your hand-me-downs. And party at the party playing with his nose now. And Baka got a weird case, why is he around? Certified lover boys, certified pedophiles. Wop, 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 that fuck him up. Wop, 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 I'ma do my stuff. Why you trolling like a bitch, ain't you tired? Trying to strike a chord, and it's probably A minor. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. You think the Bay gon' let you disrespect Pop, nigga? I think that Oakland show gon' be your last stop, nigga. They cold foul, I don't know why you still pretending. What is the owl? Bird niggas and bird bitches, go. The audience not dumb, shape the stories how you want. Hey Drake, they're not slow. Rabbit hole is still deep, I can go further, I promise. Ain't there something? Be rest, that's for bitchin'. You Malibu most wanted, ain't no law boy, you ball boy. Fish Gatorade or something. Since 2009, I had this bitch jumpin'. You niggas will get a wedgie, be flipped over your boxes. Or over your foe, the other vaginal option. Pussy, nigga better straighten they posture. Got famous all up in content, might write this with a doctor. Tell a pop star quit hiding, fuck a caption, won't action. No accident, I'm hands on, he fuck around, get polished. Fucked on Wayne Grow, he was in jail, that's conniving. Then get his face tatted like a bitch apologizing. I'm glad D Rose came home, y'all didn't deserve him neither. From Alondra down to Central, nigga better not speak on Serena. And your homeboy needs subpoena, that predator moving flocks. That name gotta be registered and placed on neighborhood watch. I lean on you niggas like another line of walk. Yeah, it's all eyes on me and I'ma send it up the pot. Ay, put the road label on me, I'ma get them drop. Ay, sweet chin music and I won't pass the ox. Ay, how many stocks do I really have in stock? Ay, 1, 2, 3, 4, 5 plus 5. Ay, devil is a lie, he a 69 god. Ay, freaky ass niggas need to stay their ass inside. Ay, roll their ass up like a fresh pack of Zyme. Ay, city is back up, it's a must, we outside. Ay. They not like us, they not like us, they not like us. They not like us, they not like us, they not like us. Once upon a time, all of us was in chains. Homies still doubled down, calling us some slaves. Atlanta was the mecca, building railroads and trains. Bear with me for a second, let me put y'all on game. The settlers was using town folk to make them richer. Fast forward 2024, you got the same agenda. You run to Atlanta when you need a check balance. Let me break it down for you, this the real nigga challenge. You caught Future when you didn't see the club. Hey, what? Lil Baby help you get your lingo up. What? 21, get your first street cred. Thug makes you feel like you a slime in your head. Hey, what? Quavo said you can be from Northside. But 2 Chainz say you good, but he lied. You run to Atlanta when you need a few dollars. No, you not a colleague, you a fucking colonizer. The family matter and the truth of the matter. It was God's plan to show y'all the liar. He a fan, he a fan, he a fan. He a fan, he a fan, he a freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for your life. Freaky ass nigga, he a 69 god. Freaky ass nigga, he a 69 god. Hey, 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 run for your life. Hey, 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 run for
let
your life.
Let me hear you say O-V-ho.
O-V-ho.
Say O-V-ho.
O-V-ho.
Then step this way, step that way. Then step this way, step that way. Are you my friend? Are we locked in? Then step this way, step that way. Then step this way, step that way.
Kendrick Lamar, Not Like Us, sur Génération Sport. Vous êtes sur le 101.5 de Radio G. Vous allez le retrouver ce week-end, dans la nuit de dimanche à lundi, à la mi-temps du Super Bowl, le show que tout le monde regarde vraiment partout dans le monde, tout ce que tout le monde attend. C'est toujours sponsorisé par Pepsi, je sais plus si c'est toujours le cas, mais
c'est toujours.
Mais ouais, mais c'est vraiment le truc.
Ils ont pas aligné,
dommage pour eux. Mais voilà, Kendrick Lamar va forcément faire parler de lui
durant ce concert du Super Bowl. Et donc, on va en parler d'ailleurs du Super Bowl dans quelques instants avec toi, Mathéo.
Oui, on va en parler, mais juste avant, on va refaire une petite virgule avec toi, toujours Nelson, donc des Yankees, vers le cheerleading, puisque tu voulais en parler, et c'est important aussi d'en parler, puisque c'est un des trois piliers qui composent du coup le club des Yankees, avec 80 licenciés pour le cheerleading. Donc parle-nous justement de qu'est-ce que c'est et de comment vous le mettez en pratique.
Alors justement, oui, c'est important et c'est associé au football américain parce que à l'origine, c'est cette discipline qu'on connaît au bord du terrain pour encourager et pour motiver le public. Ce qu'il faut savoir, c'est que le cheerleading s'est développé pour devenir une vraie structure sportive, une vraie compétition sportive avec des notions qui sont celles en fait de la gymnastique, mais en équipe. Oui, il va y avoir des acrobaties, il va y avoir des portées, il va y avoir des projections, il va y avoir des pyramides, il va y avoir des enchaînements. Donc tout ça, c'est des choses qui sont notées par des juges. C'est une chorégraphie de 2 minutes 30, nos différentes équipes, parce que ça commence à partir de 8 ans pour les premières en compétition. C'est mixte, d'ailleurs. Et c'est vraiment un sport spectacle aussi, parce qu'on est sur un sport de représentation, donc il y a le côté chorégraphie. Mais pour avoir donné des coups de main à certains entraînements, c'est un sport qui est athlétique, parce qu'il faut être capable d'enchaîner les postures, de porter, d'engager des extensions. C'est vraiment un sport très complet.
Et c'est un sport qui marche. J'ai donné ce chiffre de 80 licenciés, justement. C'est assez impressionnant. Finalement, vous avez autant de licenciés en football américain qu'en cheerleading.
Alors, je n'ai pas vérifié avant de venir, mais je me demande même si actuellement, on n'en a pas forcément plus en cheer, parce que le côté avantageux du cheerleading, c'est que c'est en salle, donc on n'a pas froid quand il fait froid dehors. Le football américain, on a une certaine déperdition au niveau des licenciés qui se font surprendre par la météo en se disant mais dis donc c'est mouillé dehors. Alors qu'au cheerleading, voilà, quand on est concentré sur sa pratique, il n'y a pas ça qui vient polluer la pratique en elle-même. Donc oui, ça marche très bien. Et puis il y a beaucoup de clubs en France. Il y a des très belles compétitions. Nos qualifications ont lieu à Nantes le 16 mars. Donc toutes les équipes sont en train de se préparer. C'est une belle journée de compétition où toutes les sections de différents âges et de différents niveaux s'enchaînent. Donc c'est une journée de spectacle. Et puis on va espérer se qualifier pour les finales France qui ont lieu de mémoire le week-end du 24-25 mai au Vent d'Espace.
Et on rappelle, c'est mixte.
Tout à fait, ouais.
Et ben pourquoi pas venir en reparler avant le 16 mars.
Avec plaisir.
On va parler du coup là de la grosse info, alors qui est pas vraiment liée au club, mais plus au sport en tant que tel. C'est le Super Bowl. Forcément, déjà, est-ce que toi tu consommes du... J'imagine que oui, mais c'est quand même une question à poser. Est-ce que tu fais partie de la team comme beaucoup ici, couche tard, regarde les matchs très tard la nuit, priorise son sport plutôt que le sommeil.
C'est pas tant prioriser le sport que le sommeil, mais je suis père de famille, donc à un moment faut se lever le matin.
Oui, c'est sûr.
Faut aller au travail, donc je peux pas forcément me permettre à chaque fois. Et cette année, je suis particulièrement content parce que en effet, le Super Bowl tombe la veille des vacances.
Oui, puis donc, assez tôt finalement, minuit et demi de mémoire, c'était plus.
Non, ça a toujours
ça
été.
Ça a toujours été minuit.
Ouais.
Ok.
Ouais.
C'est ça, ouais, toujours.
Tout à fait. Donc c'est toujours depuis quelques années, c'est toujours le deuxième dimanche de février. Et pour le coup, cette année, ça tombe sur les vacances scolaires. Donc oui, ça va être l'occasion de pouvoir le regarder sereinement. Si vous avez des collègues qui prennent leur lundi bizarrement, vous savez quelles sont leurs passions assez rapidement.
Vous savez qu'est-ce qu'ils feront le oui, dimanche soir, exactement. Il y a une équipe que tu supportes, toi, en NFL?
Alors, pas une précisément. Alors ça peut faire un peu bizarre de le dire comme ça, mais j'ai des affects avec plusieurs équipes. La première équipe que j'aime particulièrement, c'est celle qui porte les mêmes couleurs que mon club formateur, donc c'est les Steelers de Pittsburgh. Voilà, qui avait un style de jeu. Quand j'ai commencé le football américain, c'était une équipe qui donnait un peu cette dynamique. Après, je suis fan de la ville de Seattle en elle-même. Donc les Seahawks, c'est une équipe que j'aime bien aussi. Et j'ai de la famille dans la région de Philadelphie. Donc voilà, j'ai un petit affect pour les Eagles. Donc je suis pas un grand fan qui suit une seule équipe. Ouais. Mais l'avantage, c'est que ça augmente mes chances d'avoir mon équipe au Super Bowl. Donc,
on sait du coup vers qui ton cœur va battre.
Les Chiefs, du coup. Les Chiefs, apparemment.
Tout à fait.
Non, mais justement, cette saison, t'as pu quand même peut-être regarder quelques matchs. Ça a été quoi un peu les moments marquants de cette saison de NFL? Ou ceux qui t'ont marqué, en tout cas, pour ceux que t'as pu voir?
Moi, sur ceux qui m'ont marqué, c'est une belle domination et vraiment un style de jeu hyper intéressant et hyper complet des Ravens de Baltimore qui ont fait vraiment une très belle saison et qui malheureusement échouent contre une très bonne équipe des Bills dans les playoffs. Lamar Jackson, c'est un QB phénoménal qui est hyper complet. À la base, il était catalogué comme un sous-QB potentiellement juste running back et il apporte vraiment quelque chose de phénoménal et dans le jeu ça a été une équipe vraiment très spectaculaire. Malheureusement, ils sont tombés encore une fois sur des Bills qui sont une équipe très régulière, qui elle-même est tombée sur les Chiefs qui sont encore plus réguliers, qui sont la dynastie actuelle, en tout cas le scénario privilégié pour que ça devienne une dynastie et pour certains avec peut-être des arbitrages un peu favorables comme toujours pour les grosses équipes. Donc voilà, moi je retiendrai surtout sur la saison, ouais, un peu cette déception que les Ravens n'aient pas pu faire plus parce qu'ils avaient fait un gros trade l'année d'avant en faisant venir Derrick Henry, qui est un running back monstrueux.
Était au Titans.
Exactement, ouais,
c'est ça. Tout à fait.
Et du coup, ils avaient une combinaison de jeu au sol et de QB qui sait courir, qui sait lancer, qui était hyper intéressante. Donc voilà, c'est pour moi un des points marqués sur la saison. Et derrière, il y a forcément les Eagles qui ont confirmé leur efficacité avec un de leurs jeux favoris, le touch-push, qui est en gros un jeu où quand il reste très peu de yards à parcourir, l'équipe pousse tous ensemble comme une mêlée en fait, et ils sont imprenables quand il reste pas beaucoup à parcourir. Donc c'est un jeu assez emblématique, qui est pas forcément le plus beau, qui est pas le plus spectaculaire, mais qui est très bien fait malgré des changements de joueurs d'année en année. Donc le QB est aussi un profil intéressant. Ils ont aussi, en termes de fait de jeu, il y a le running back des Philadelphia Eagles qui a fait l'action, pour moi, la plus spectaculaire des 5-10 dernières années. En gros, il a sauté par-dessus un joueur, mais en courant en arrière. Donc, je sais pas si vous arrivez à visualiser un peu l'idée, mais voilà, il a engagé quelques esquives, il est arrivé sur le joueur, il a fait un pivot, il a engagé une impulsion, n'importe qui le fait perdre la moitié de ses muscles. Lui, il a bondi en arrière, il est passé par-dessus le joueur, l'action est, voilà, je pense qu'on la reverra et elle sera montrée le soir du Super Bowl.
Tu nous parlais de suprématie, justement, des Chiefs. C'est assez impressionnant. C'est 5 Super Bowls sur les 6 dernières éditions, si je dis pas de bêtises. Comment c'est possible, justement, qu'on ait une aussi grosse suprématie avec le système de draft, avec tout ce qu'il y a autour de la NFL, et on voit justement il y a plein d'équipes qui vont aller au Super Bowl affronter les Chiefs, mais c'est toujours les Chiefs qui restent là et qui sont ancrés dans la finale du Super Bowl.
4-2 au Super Bowl.
Ouais, bah oui.
Aussi participation.
Ouais, c'est la première équipe qui potentiellement peut faire le troisième titre de suite.
Le sweep-it.
Ouais,
comme on dit en NBA aussi,
ça fait, c'est la première fois. Alors pourtant, on sait que il y a eu les Patriots et de Tom Brady qui ont dominé pendant une période, mais qui n'ont pas réussi à faire ça. Donc, vous l'avez compris, hein, je souhaite pas forcément que ça arrive. Mais sur les explications, déjà, il y a un coach qui est très intelligent. Enfin, tous les coachs de la NFL ont un niveau d'intelligence, vous imaginez, pour coordonner 53 joueurs, une dizaine de coachs. C'est pas quelque chose qu'on fait en improvisant. Donc, Andy Reid, c'est un coach qui a de l'expérience et qui gère très bien ses effectifs. Ils ont perdu beaucoup de joueurs stars et qui ont toujours été remplacés intelligemment. Donc, il y a vraiment un management de l'équipe qui est fait de façon très intelligente. Et on va pas se mentir, le Patrick Mahomes, le QB, c'est le QB d'une génération. Il est même si là mon cœur pour le Super Bowl sera pour les Eagles, j'ai énormément de respect pour ce QB à l'image que j'ai pu en avoir pour Tom Brady. Patrick Mahomes apportant un côté spectaculaire supplémentaire où il est venu inventer et réinventer le poste de QB sur la mécanique de lancer sur le dernier match de playoff, le match de division, le titre de division, il est en train d'être plaqué en tombant en avant et il parvient à jeter une balle de 20 à 25 yards à son tight end star, Travis Kelce, sur une distance où moi, si j'essaye de le faire, je me fais juste mal. Lui, il est capable d'engager une extension du bras dans un contexte hyper défavorable. Donc, il est vraiment spectaculaire. Il a fait des lancers où il est à l'horizontale parallèle au sol. C'est un QB vraiment qui est hors norme et j'ai pas les éléments, je m'intéresse pas forcément aux détails des chiffres, mais pour terminer la comparaison avec Tom Brady avait l'habitude de pas forcément chercher à prendre la plus grosse masse salariale pour lui afin de permettre au GM, au general manager, de constituer un effectif équilibré, ce qui a permis aux Patriots d'avoir une équipe toujours efficace, alors que dans certaines équipes il y a le joueur star qui arrive qui dit moi je veux le plus gros chèque possible. Donc je vous rassure, hein, Patrick Mahomes a un très bon salaire,
ouais, on s'en fait pas pour lui
à la fin du mois, mais
les revenus sponsors sont là, voilà,
ça fait partie de la gestion,
ouais, les revenus sponsors sont là pour lui, pour compléter, on va dire.
Je suis pas inquiet,
non. Écoute, c'était complet sur cette NFL. La transition est toute trouvée parce qu'on parle de salaire, on parle de trade, de joueurs, voilà, qu'on a pu échanger ou perdre dans une saison. On va rester aux États-Unis tous ensemble, mais on va maintenant passer à la NBA. Amaury reprend le micro parce qu'il a des choses à dire. Ça le démange depuis tout à l'heure. On va évoquer.
Je pense qu'ils sont deux là, à être bouillants là.
Exactement. Ah, j'étais bouillant aussi lundi matin, mais pour d'autres raisons, mais parce que c'était un autre trade. Mais il s'est passé dans la planète basket dimanche soir pour nos auditeurs, enfin dimanche matin, enfin ouais dimanche matin.
Ouais, 6h du mat.
6h du mat, pour être précis. Un trade qui a bouleversé l'historique de la NBA, enfin le microcosme, toute la planète basket. C'est la première fois qu'un joueur a été tradé, enfin un aussi gros joueur que Luka Doncic soit tradé, je veux dire, du côté de Los Angeles avec Anthony Davis en contrepartie et pas grand chose aussi, autre chose à côté, mais bon, ça on en parlera pas forcément, on pourra développer ça sur la chaîne Twitch. Mais Faustin, il s'est passé un truc de malade.
Bah là, c'est le transfert, le trade le plus inattendu de l'histoire de la NBA, peut-être de l'histoire du sport même. J'ai pas un souvenir d'un trade aussi inattendu. Même les joueurs n'étaient pas au courant, c'est pour dire. Et c'est un trade qui était même un peu incompréhensible dans l'échange des joueurs. Pourquoi trader Luka Doncic, qui n'a que 25 ans, qui arrive dans la fleur de l'âge, qui va entrer dans son prime, qui a fait une finale NBA la saison dernière avec une équipe qui marchait bien, ne pas prévenir son coach, c'était assez incompréhensible. Alors on peut en débattre pendant des heures évidemment, mais à mon sens, je vais peut-être avoir une popular opinion, mais c'est un trade qui est favorable aux deux équipes. Je sais pas ce que vous en pensez.
Je te rejoins. Amaury, on va avoir l'avis d'Amaury.
On va en reparler juste après.
Vas-y Amaury. Non, vas-y.
Bah, sur le favorable, en fait, peut-être qu'à court terme, Dallas va être bien en défense avec Anthony Davis, qui est l'un des tout meilleurs défenseurs au monde. Il s'autoproclame d'ailleurs meilleur défenseur au monde. Mais moi, je vois quand même que sur l'avenir, t'as un prodige avec toi, t'as un génie du basket, comme on en a très rarement. C'est peut-être le plus gros génie qu'il y a en NBA. Alors, il a des défauts, mais c'est peut-être le plus gros génie qu'il y a en NBA actuellement. Le perdre alors qu'il est pas encore dans son prime, qui t'a déjà amené en finale NBA, je trouve quand même que le côté gagnant pour Dallas, alors peut-être qu'ils vont les gagner le titre en fin d'année, et là je dirais bon bah ok, bien joué. Mais moi j'ai du mal à voir quand même ça positivement pour Dallas, parce qu'en plus ils récupèrent Anthony Davis, mais à côté ils auraient pu récupérer plus, parce que je pense que si Dallas met Doncic sur le marché, dit Doncic est transférable, mais il y a des offres qui sont énormes de la part de
l'équipe des Wizards qui peut partir, je pense.
Mais franchement, il y a des offres qui sont énormes. Et j'ai l'impression que récupérer Anthony Davis, bien que ce soit un joueur incroyable, je trouve que c'est faible par rapport à Luka Doncic, qui est un génie absolu. Quoi.
De ce que j'ai vu, c'est qu'il y avait aussi une cassure entre le staff des Mavs, vis-à-vis de l'hygiène de vie de Luka Doncic, qui voulait pas se remettre de ses blessures, qui faisait pas beaucoup d'efforts, qui était à 120 kilos il me semble cet été, et qui faisait pas beaucoup d'efforts pour revenir en forme et au meilleur de son niveau, et c'est ça qui a créé une cassure aussi avec le staff et qui a fait pencher qui a fait que ce trade a eu lieu finalement, même si peut-être que Rob Pelinka a fait
on va quand même dire aux auditeurs quand même que c'est ça part d'une blague de pote, hein.
Ouais, c'est ce qui était dit,
c'est c'est quand même deux general managers, donc deux directeurs sportifs comme toi, Nelson, qui se sont fait une blague entre eux en se disant « Oh bah si je transférais Luka Doncic, qu'est-ce que tu me proposerais ?» Et en fait, c'est parti comme ça, et comme tu dis, sans prévenir personne.
Pendant le match, Dallas et Lakers en mi-janvier, je crois.
Et puis le jour du trade, quand même 9 heures avant, Dallas fait une communication sur ses réseaux sociaux, sur Twitter, enfin sur X, avec une vidéo de promo de Luka Doncic qui sort d'une voiture pour dire... que c'est la fête des cowboys à Dallas, quoi. Donc, et derrière, bim, il se fait lourder. Donc,
et Luka a acheté une maison à 15 millions de dollars une semaine avant son trade à Dallas.
Tout va bien.
Oh, ça va, il a encore le bon pour se faire rembourser.
Il pourra peut-être la vendre à Anthony Davis.
Je suis pas sûr qu'il y ait des jours de rétractation aux États-Unis, mais bon.
Et Anthony Davis va lui racheter, il y aura pas de problème.
Ouais, c'est assez incroyable de
faire
dire
un trade aussi.
Bon, par contre, après, d'un point de vue salaire, parce que tout à l'heure, c'est intéressant, c'est ce que tu disais, Nelson, par rapport au gros salaire et Mahomes, d'ailleurs, mais notamment Brady aussi par le passé, qui n'ont peut-être pas forcément pris l'entièreté de la masse salariale. C'est vrai qu'au Los Angeles Lakers, ça va être très compliqué la masse salariale, ouais, salariale, parce qu'il y a encore un LeBron qui va tourner aux alentours des 50 millions de dollars par an, et donc un Luka Doncic qui va s'approcher de ça aussi, parce que il va signer une extension ouais, max dans très peu de temps.
C'est ça aussi que les Dallas voulaient pas donner.
Mais le max, c'est de 112 millions d'inférieur à celui qu'il était à Dallas.
Ouais,
parce
ouais.
que quand t'es tradé dans ton équipe, tu peux prendre un max bien plus important que quand t'es drafté, je veux dire, plutôt que quand t'as été trade. Donc là, Luka Doncic, bon, il sera pas à plaindre non plus. Hein, ça va être un salaire phénoménal.
Il perd énormément.
Ouais, bah oui, bien sûr, le merch. Ouais,
le merch qui va sûrement bien.
Il perd énormément, mais il arrive dans le marché de Los Angeles, qui en même temps devrait lui rapporter pas mal d'argent aussi.
Bien sûr, exactement. Ce qui est assez incroyable dans cette franchise aussi, Faustin, c'est que cette franchise arrive toujours à se réinventer, ouais, se renouveler, arrive toujours à avoir le joueur générationnel ou le très bon joueur. Et là, en fait, bon, voilà, il y a eu Magic, il y a eu Karim Abdul-Jabbar, mais il y a eu tellement de joueurs par le passé. Wilt,
ils ont récupéré Shaq qui avait 24 ans.
Exactement, pareil. Ils ont eu Shaq avec le trade avec Orlando. Enfin, ils ont eu Kobe, ils ont eu tous les meilleurs joueurs de ces dernières années. Et là, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, si ce n'est plus que de la chance. On va utiliser le mot chance pour pas être vulgaire à l'antenne, mais clairement, avoir Luka Doncic à 25 ans, c'est incroyable pour cette franchise.
Et là, tu disais ça aux fans des Lakers au début de la saison, qu'en février, ils se retrouvaient avec Luka Doncic et LeBron James dans la même équipe, mais personne n'y aurait cru, et tout le monde aurait signé surtout. Est-ce que Luka Doncic, là où je rejoins pas du tout le general manager des Mavs, comment tu peux dire que sur l'avenir, tu peux pas gagner à l'avenir avec Luka Doncic, qui a tout pour devenir le meilleur joueur.
Et qui t'emmène en finale NBA en plus.
En plus, voilà. Donc, parce que autant je me dis sur la saison, bon, Luka Doncic blessé, si tu le trades, voilà, ça peut le faire. Sur la saison, c'est peut-être un bon move. Mais dire que sur l'avenir, Luka Doncic peut pas te faire gagner, c'est incompréhensible. Et là, le passage de témoin entre LeBron James et Luka Doncic, mais il est tellement évident, il est énorme, et il est parfaitement timé, c'est magnifique.
Et ouais. Moi, il y a quelque chose qui me plaît, par contre, pour Luka Doncic, c'est d'être avec LeBron James, qui est un phénomène de longévité, s'il a des problèmes d'hygiène de vie, je pense que LeBron, il va lui dire, mon coco, pendant que je suis avec toi encore, je sais pas pourquoi.
Un ou deux ans, ouais.
J'ai envie, je vais te faire de toi une personne. Alors, Luka Doncic n'aura jamais l'hygiène, n'aura jamais le physique de LeBron. Ouais. Mais je pense qu'il peut lui faire prendre conscience de certaines choses. Et je pense que ce duo, qui ne sera peut-être pas le duo qui dominera tout, dans le sens où si les Lakers ne vont pas chercher un autre pivot, en tout cas cette année, je les vois incapables de faire quelque chose. Mais je pense que ça peut permettre derrière à Doncic de vraiment devenir le joueur qu'il doit devenir avec le talent qu'il a.
Ouais, avoir comme mentor LeBron James, ça va être important. Faut quand même rappeler aux auditeurs aussi que bon, LeBron James, on l'a jamais vu après un match avec une bière à la main.
C'est vrai.
Luka Doncic dans les
vestiaires. Après une finale de conf.
Après une finale de conf, le monsieur a quand même une petite bière dans la main alors qu'il jouait deux jours après quand même. Il se l'est fait retirer parce qu'il y avait une caméra qui traînait et que t'as un mec du staff des Dallas Mavericks qui était venu.
Il a pris un whisky en arrivant à la maison, je pense.
C'était pas le bon sponsor. Oh.
Autre trade le lendemain. Un trade assez fou aussi. Ça concerne une équipe avec un joueur français, avec Victor Wembanyama. C'est l'arrivée de De'Aaron Fox, donc un vrai bon meneur NBA, 27 ans, établi dans la ligue, qui arrive aux côtés de Victor Wembanyama. Bon, on va détailler un peu le trade rapidement, avec donc Zach LaVine du côté de Chicago qui va à Sacramento qui envoie Fox aux Spurs, mais les Spurs envoient des picks de draft, un peu comme aussi en NFL, et des joueurs du côté des deux équipes. Et au final, le grand gagnant, c'est qui?
Au final, c'est les Spurs, clairement, pour récupérer De'Aaron Fox, joueur. Non, on voit que, il me semble, c'est Trey Jones, Zach Collin et un pick de draft.
Mais oui, ils ont gardé les picks les plus importants quasiment qu'ils avaient.
Et leur meilleur joueur.
Parce que moi, quand ça en parlait, je pensais que Keldon Johnson allait devoir partir, que Vassell ou Castle, même s'ils ne voulaient pas y toucher, que au pire, Jeremy Sohan allait partir. Ils ont réussi à garder toute la base de leur équipe en voyant Zach Collins qui s'occupait de remplir les gourdes depuis quelques temps. Et Trey Jones qui pouvait apporter un petit peu en sortie de banc, mais qui n'était pas un joueur majeur de l'équipe.
Sidi Sissoko, ouais.
Sidi Sissoko, je l'adore, c'est très bien, oui, c'est un Frenchie. Il a joué à Paris très bien. Maintenant,
il a bien lancé très bien.
Maintenant, c'est pas un joueur important du tout pour les Spurs. Donc
c'est clair. Ouais.
Franchement, les Spurs ont fait, je pense, c'est l'un des plus gros braquages que j'ai vu sur les dernières années. Et l'équipe, pour moi, qui est 100% perdante, c'est même pas Chicago, parce que Chicago, ils ont besoin de se reconstruire. C'était un bordel monstre.
Mais bon, tu peux gratter des meilleurs tours de draft en voyant cette lavine.
Chicago, c'était un bordel monstre depuis des années.
Ouais, mais ils voulaient juste récupérer
du côté des Kings, tu perds ta star, c'était lui qui faisait un peu ton identité depuis quelques années. Bah, depuis pas mal d'années, il est arrivé à 19 ans aux Kings. Tu le perds contre Zach Lavine qui revient avec DeMar DeRozan. Ça n'a pas marché à Chicago. Je vois pas pourquoi ça marcherait du côté des Kings. Alors peut-être que DeRozan va être retrade dans, j'ai entendu parler de personnes qui disaient que DeRozan pourrait être retrade dans la foulée là, mais je vois pas où vont les Kings et j'ai l'impression que c'est les Kings, ça va être vraiment une équipe mid comme ils l'ont été depuis pas mal d'années, malgré leur coup d'éclat il y a 2 ans où ils ont été très bons et fini deuxième de conf.
Et qui ont été en playoff. Si vous êtes fan de NBA, il reste 48 heures pour tout ce qui est transfert et trade. Suivez Twitter, les réseaux sociaux, Trash Talk si vous voulez, vraiment vous allez vous régaler parce que c'est incroyable ce qui est en train de se passer pour ces 48 prochaines heures en NBA. On va voir si on peut faire une émission dans les prochains jours pour analyser tout ça, débriefer en longueur, prendre le temps de parler sur la chaîne Twitch de Génération Sport. On fait une petite minute avec toi quand même sur le handball, ouais. Amaury, sur ce qui s'est passé.
On va faire un flash sport qui va très vite, presque aussi vite que Mathieu Van Der Poel, j'ai envie de dire, est tout simplement inarrêtable en cyclocross avec un 7e titre de champion du monde, et derrière lui toujours Wout Van Aert, une rivalité qui tourne presque au duel pour la 3e place pour l'ensemble des autres concurrents. En handball, tu en parlais, les Bleus terminent leur mondial sur une bonne note après une grosse désillusion en demi-finale. Ils arrachent tout de même le bronze grâce à une victoire d'un but face au Portugal et un arrêt de la tête de Charles Bolzinger presque à la dernière seconde. Mais le patron incontesté du handball reste le Danemark, intouchable j'ai envie de dire. La bande à Mathias Gidsel, l'actuel meilleur joueur du monde, décroche son 4e titre mondial d'affilée. En rugby, entrée fracassante du 15 de France dans le tournoi destination, victoire 43-0 face à des Gallois en grande difficulté ces temps-ci. Seul bémol à noter, le carton rouge de Romain Ntamack suspendu pour le crunch face aux Anglais samedi prochain. En tennis, retour express de la Coupe Davis, ces Bleus écrasent le Brésil ne concédant qu'un seul set en 4 matchs. Le prochain rendez-vous, ce sera face à la Croatie. En athlétisme, Jimmy Gressier, qui a récemment quitté NAC pour la marque française produite par Decathlon Kipron, a claqué un énorme coup en battant le record de France du 5000 mètres en 13 minutes tout pile, soit une moyenne de 23 km/h ou 2 minutes 35 au kilomètre. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et enfin, en Ligue 1, on va juste donner tous les résultats du week-end. Lens bat Montpellier 2-0, le PSG domine Brest 5-2, Monaco l'emporte contre Auxerre 4-2, Lille surclasse Saint-Etienne 4-1, Toulouse et Nice se neutralisent 1-1, Rennes se relance face à Strasbourg 1-0, Nantes s'impose contre Reims 2-1, l'OM remporte l'Olympico 3-2, et enfin, le match nul entre Angers et Le Havre, on en a parlé tout à l'heure.
Merci beaucoup Amaury pour ce flash international, enfin, et même Ligue 1 aussi de sport. On se quitte là-dessus, on se retrouve la semaine prochaine. On n'oublie pas que le SCO joue contre Strasbourg en Coupe de France demain. D'ailleurs, Brest est le premier qualifié et Dunkerque a poussé Lille en séance de tir au but. C'est actuellement en Coupe de France. Ciao ciao, et maintenant place à l'imaginaire sur 101.5.
Le jour où on m'a dit va falloir...